France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, André Bamberski, un père éperdu. En 1982, Kalinka Bamberski, 14 ans, meurt chez son beau-père, un médecin allemand. Malgré les doutes, les soupçons et les expertises, la justice allemande classe l'affaire. Alors, pendant près de 30 ans, le père de la victime, André Bamberski, va aller au-delà de lui-même. Il va s'oublier pour que Kalinka ne le soit pas. Oui, il a fallu tout ce temps à cet homme ordinaire pour gagner un combat extraordinaire, faire juger le meurtrier de sa fille. Malgré les freins, les blocages, les entraves placées sur sa route par les justices françaises et allemandes. Oui, il a fallu 30 ans et un acte illégal pour qu'André Bamberski parvienne à ses fins. S'il n'avait pas commandité l'enlèvement de Dieter Krombach, jamais celui-ci n'aurait été jugé par la justice française, jamais il ne serait allé en prison pour avoir tué Kalinka. Notre invité aujourd'hui, Laurent Decaune, l'avocat d'André Bamberski, en duplex de France Bleu Occitanie à Toulouse. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récits documentaires et rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
D'abord, le policier de permanence au commissariat de Mulhouse ne comprend pas. Le téléphone collé à l'oreille, il note machinalement 3h40, nuit du 18 octobre 2009. Son interlocuteur s'exprime dans un allemand approximatif et la seule indication intelligible est un nom de rue, rue du Tilleul. 3h50, nouvel appel au commissariat. Nouvelle voix au bout du fil et cette fois l'homme se présente. Monsieur Bamberski de Toulouse. Et ce monsieur Bamberski raconte qu'il vient lui-même d'être contacté par téléphone et qu'on lui a dit qu'un certain Dieter Krombach, recherché par la police française, se trouve rue du Tilleul. Le commissariat de Mulhouse y envoie aussitôt un équipage de la BAC. Sur place, devant un portail, en effet, les policiers découvrent un homme bâillonné et ligoté au poignet, à la taille et aux jambes. Il saigne de la tête, son œil gauche est gonflé. Transporté vers l'hôpital, il déclare « Je m'appelle Dieter Krombach et j'ai été enlevé. » Il en est certain. Le commanditaire de son kidnapping est son ennemi de toujours, comme il dit, André Bamberski. Le lendemain, le 20h de TF1 fait le point.
Je vous le disais, c'est une affaire vieille de presque 30 ans et elle vient de connaître un rebondissement incroyable. L'assassin d'une jeune Française de 14 ans, Kalinka, tuée dans les années 80, a été retrouvé ligoté à quelques pas du tribunal de Mulhouse. C'est le père de la jeune victime qui est soupçonné de l'avoir ramené en France. Explication de Patrick Ninin et Jacques Ricboivin.
André Bamberski arrive au tribunal de Mulhouse. Dans la soirée, il sera remis en liberté. Il est soupçonné d'avoir organisé l'enlèvement du docteur Dieter Krombach afin de le livrer à la justice française. Le médecin avait été jugé par contumace en 1995 et reconnu coupable de la mort de la jeune Kalinka, la fille d'André Bamberski.
Les policiers n'ont pas eu à faire beaucoup d'efforts pour retrouver le commanditaire du rapt. André Bamberski, donc. Et dont l'histoire, comme le titre Le Monde le 22 octobre 2009, tient aisément en quelques mots. Un père organise l'enlèvement du meurtrier de sa fille que l'Allemagne refusait d'extrader. Tout est évidemment juste dans cette phrase. Mais elle ne dit rien de la durée et de l'intensité de son combat contre Dieter Krombach. Entendu par les policiers, le médecin allemand raconte. Le 17 octobre, vers 21h, il déverrouille sa voiture, garée devant chez lui, à Lindau, une ville balnéaire du lac de Constance. « Trois hommes me sont tombés dessus, dit-il, et j'ai perdu connaissance. » Une matraque, les lunettes du médecin et des gouttes de sang sont effectivement découvertes devant son domicile. Quand Krombach reprend conscience, il est allongé sur le sol, à l'arrière d'un van Volkswagen. L'un des agresseurs est assis sur la banquette, un pied posé sur le corps entravé du médecin, les deux autres sont devant. 250 km plus tard, Krombach est jeté de la voiture, rue du Tilleul, donc, à Mulhouse. À après avoir recueilli la déposition du médecin, les enquêteurs entendent André Bamberski. Oh, ils n'ont pas eu à chercher bien loin. Il est dans un hôtel de la ville, arrivé le matin de Toulouse, où il réside. Et voici sa version. Évidemment qu'il se réjouit de l'arrivée de Rambard en France. Évidemment, cela ne gêne pas qu'il ait été un peu amoché, au passage. Mais il ne connaît pas ses ravisseurs. Il n'a pas démarché pour l'enlèvement de Rambard. On le lui a proposé, et il a accepté. L'auteur du rapt, un Kosovar prénommé Anton, retrouvé grâce à ses échanges téléphoniques avec Bamberski, ne dit pas autre chose. Quelques jours plus tard, le 7 novembre 2009, il est sur le plateau de Thierry Ardisson.
Ça fait pas mal d'années que je recevais des propositions d'un peu partout, soit de le tuer, soit de l'enlever. Bon, tuer, je ne l'ai jamais voulu, d'une part parce que je suis catholique pratiquant, et surtout parce que le fait de le tuer ou de le faire tuer, ce n'est pas exercer la justice. Donc c'est pour ça que j'ai accepté une proposition qui m'a été faite de l'amener en France.
Si vous aviez voulu le faire tuer, ça vous aurait coûté moins cher que de le faire enlever.
Absolument.
Pour faire tuer quelqu'un, c'est 10 000 euros.
Absolument.
Pour faire enlever quelqu'un, c'est 20 000.
Oh non.
Plus.
Non, non. Pour un enlèvement international, c'est 200 000 euros. Parce que les risques sont énormes.
Dans la chambre d'hôtel d'André Bamberski, les policiers retrouvent 19 000 euros. Autrement dit, les frais d'Anton et des deux hommes qui l'accompagnaient, puisque tous affirment la main sur le cœur qu'il n'était pas question d'argent, mais de justice. La justice. Voilà 27 ans que la Française demandait l'extradition du docteur Rambard. 27 ans que l'Allemande la refusait. Alors, ce qui s'est passé en ce mois d'octobre 2009 est évidemment illégal, mais est-ce pour autant illégitime ? Le droit et la morale ne convolent pas toujours en juste noces, c'est bien connu. L'avocat d'André Bamberski, Laurent Decaune, présente alors les choses ainsi aux médias venus à Toulouse. La justice à Mulhouse, la justice française avait depuis longtemps le devoir de juger de façon concrète le docteur Rambard pour le meurtre de Kalinka. Elle va enfin pouvoir le faire. Kalinka Bamberski. Des photos en noir et blanc fichent pour toujours un léger sourire dans un visage encadré par un rideau de cheveux que l'on devine blond. Elle a 14 ans en cette année 1982. Voilà 2 ans maintenant qu'elle vit avec sa mère chez son beau-père. Une histoire banale de rupture et de famille recomposée qui commence en 1962 à Casablanca. C'est là que vivent André Bamberski, comptable de formation et patron d'une entreprise de 850 salariés, et sa femme Danielle. Kalinka, elle, née au Maroc en 67, son frère Nicolas, 5 ans plus tard. Au consulat allemand de Casablanca travaille un cardiologue, plutôt séduisant, Dieter Rambard, ou Rambach à la française. Lui et Daniel entretiennent une liaison qui dure encore quand les Bamberski s'installent à Toulouse en 76. 1 an plus tard, Daniel quitte son mari et rejoint son amant sur les rives du lac de Constance. Ils se marient. Puis Kalinka et Nicolas les rejoignent en 1980. Et puis il y a ce 10 juillet 82. Kalinka est trouvée morte au domicile de son beau-père. Le cardiologue allemand explique alors aux enquêteurs que Kalinka a dû mourir des suites d'une insolation, qu'elle était fatiguée par la journée de la veille, passée à nager et à faire de la planche à voile sur le lac. Et comme elle se plaignait de ne pas bronzer assez, bien le docteur lui a fait une injection à base de fer. Voilà tout. Ah non, non, non. Après l'avoir trouvée, je cite, dans un état critique dans sa chambre au matin, il a tenté de la ranimer, lui a fait d'autres piqûres, mais la jeune fille ne s'est pas réveillée. Et le médecin répète, c'est dû sans doute à une insolation. Pas très clair tout ça. D'ailleurs, quelques jours plus tard, à nouveau entendu, Rambard change un peu sa version. Kalinka souffrait d'anémie, voilà le pourquoi de la première injection. L'autopsie de Kalinka est effectuée le 12 juillet à l'hôpital de Meiningen.
L'autopsie effectuée ce jour met en évidence les éléments suivants. Le très bon état alimentaire et d'hygiène de cette jeune fille de 14 ans, l'état de décomposition inhabituel du cadavre, des traces ressemblant à du sang frais sur l'entrejambe de la culotte et des dépôts rougeâtres sur les parties génitales externes, ainsi que des substances blanchâtres et visqueuses dans le vagin. pas de cause nette du décès survenu entre 3 et 4 heures du matin. Les manœuvres de réanimation pratiquées dans la matinée sur un sujet déjà en rigidité cadavérique sont étranges et grotesques.
Si l'on résume, Kalinka n'était pas un émier, elle était en parfaite santé. Et son beau-père n'a pas pu la trouver dans un état critique au matin, puisque l'adolescente était déjà morte. De surcroît, il est médecin. Il ne pouvait pas ignorer que ses tentatives de réanimation ne menaient à rien. Et puis il a ses traces de sang, peut-être de sperme. Bref, il y a de questions lourdes de sens. Cette autopsie pose ces questions-là. En conséquence, un mois et trois jours après la mort de Kalinka, le parquet de la ville de Kempton décide de classer l'affaire. La vie peut donc reprendre son cours tranquillement sur les rives du lac de Constance. Mais à 1000 km de là, à son domicile toulousain, évidemment que le père de Kalinka ne comprend pas, n'accepte pas. Et parce qu'il y a des anomalies relevées par l'autopsie, parce que des questions restent en suspens, il demande, le 11 octobre, de nouvelles analyses. Effaré, dit-il, de voir que dans le dossier d'autopsie ne figure aucune analyse toxicologique ni aucune expertise. André Bamberski espère dans ce combat le soutien de la mère de Kalinka, Daniel. Mais son ex-femme ne croit pas que Krumbar, son désormais mari, ait quoi que ce soit à voir avec la mort de l'adolescente. Non, impossible pour elle. Même si elle dit pouvoir comprendre l'acharnement de son premier époux, la douleur, et puis, précise-t-elle, André n'a jamais aimé les Allemands. Il est vrai que Bamberski a été déporté par les nazis alors qu'il était enfant. Manque de chance, explique Daniel, c'est un Allemand qui m'a séduite. Dans un épisode de Faites entrer l'accusé, en février 2015, André Bamberski revient sur cette attitude qu'il peine à comprendre.
Elle m'a pas dit que je l'embêtais, mais elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu vas chercher ?» Kalinka est morte. Et ça, si vous voulez, elle me l'a répété de nombreuses fois. Kalinka est morte pour elle parce que c'était son heure de mourir. Un point, c'est tout.
Bamberski peut se sentir seul dans ce combat pour la vérité. Et de fait, il est seul. Il s'adjoint les services d'un avocat munichois, se rend plusieurs fois en Allemagne, et finalement, en novembre 82, obtient du tribunal qui a classé l'affaire les nouvelles expertises demandées un mois plus tôt. Et il se trouve que les médecins allemands qui réexaminent le dossier de Kalinka mettent en doute la chronologie des faits rapportés par le docteur Krumbar. Et puis, selon eux, le médicament dangereux qu'il a administré à Kalinka a pu provoquer une réaction allergique mortelle. Mais il note encore qu'une autre substance toxique a pu lui être injectée. Seulement voilà, il était impossible de dépister quoi que ce soit après la mort. Bref, on ne sait pas ce qui a tué Kalinka. Peut-être est-ce une réaction à l'injection ferrugineuse, la version du docteur Krumbar, mais peut-être est-ce autre chose, mais qu'on ne peut pas approuver. Alors, le corps de Kalinka, qui repose dans un cimetière toulousain, est exhumé. L'appareil génital interne et externe, intégralement prélevé, lit-on dans un document judiciaire, n'a jamais été retrouvé. Les circonstances de cette disparition n'ont jamais été élucidées. Et la justice allemande, une nouvelle fois, classe l'affaire. Mais André Bamberski ne s'effondre pas, ne renonce pas. Puisque la justice allemande ne se montre pas très curieuse, c'est un euphémisme, il porte plainte en France. Il faut se souvenir qu'en ces années 82-83 et les suivantes, on n'envoie pas de mails, mais des courriers postaux. On glisse des feuilles de papier dans des machines à écrire, on n'allume pas un ordinateur. On appelle avec des téléphones gris à cadran rond en bakélite. On ne dégaine pas un smartphone connecté en 5G. Oui, il faut se rappeler de cela pour comprendre que les procédures entre l'Allemagne et la France ne sont pas des plus rapides. Ce n'est qu'en juin 87, 5 ans après la mort de Kalinka, que des médecins français, mandatés par une magistrate parisienne, reçoivent de l'Institut médico-légal de Munich les prélèvements effectués lors de l'autopsie. Et leurs conclusions sont cinglantes. 1. Les analyses allemandes ont été peu poussées, employant des méthodes d'investigation obsolètes. 2. Absence d'analyse du sang cardiaque, pourtant prioritaire. 3. Disparition inexplicable de l'appareil génital. 4. Absence de prélèvement des substances vaginales qui auraient permis une recherche de sperme. Malgré tous ces manques, les experts français pensent à une mort brutale. La juge d'instruction écrit dans son ordonnance de renvoi:
le décès de Kalinka Bamberski est la conséquence directe d'une injection intraveineuse effectuée par Dieter Krombach. Pour justifier cet acte, Dieter Krombach a fourni des explications contradictoires et mensongères. Dieter Krombach a également menti sur la chronologie des faits. Enfin, le simulacre de réanimation et l'emploi de produits incompatibles entre eux ne peuvent s'expliquer que par la volonté de dissimuler l'origine de la mort. L'ensemble de ces éléments constitue des charges suffisantes qui laissent présumer que Dieter Krombach a pratiqué la piqûre mortelle, non pas dans un but curatif, mais dans l'intention de donner la mort.
Dieter Krombach est renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour homicide volontaire. Le procès s'ouvre début mars 1995. Kalinka est morte depuis 13 ans. Vous écoutez Affaires Sensibles. Aujourd'hui, André Bamberski, un père éperdu.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
9 mars 1995, l'ambiance est étrange devant la cour d'assises de Paris. Magistrats, jurés, partie civile, avocats sont là, bien sûr. Mais le box des accusés est vide. Dieter Krombach n'a pas comparu. En son absence, il est reconnu coupable de coups et blessures ayant entraîné la mort de Kalinka Bamberski sans intention de la donner et non plus d'homicide volontaire. Il est condamné par contumace donc à 15 ans de prison, mais aucun mandat d'arrêt international n'est lancé. André Bamberski ne décolère pas. Didier Krombach est le meurtrier de sa fille. L'avocat général lui-même en était tellement convaincu qu'il avait requis 30 ans de réclusion criminelle. Mais la cour ne l'a pas suivi. L'agence France-Presse, dans sa dépêche du 14 mars 1995, écrit « Décision tout à fait inhabituelle. En général, la procédure de contumace veut que l'accusé soit condamné au maximum de la peine encourue. » Non, André Bamberski ne décolère pas de savoir que Krombach poursuit sa vie libre sur les bords du lac de Constance. La mort de Kalinka en cet été 82 n'est pas involontaire. C'est l'œuvre d'un pervers. Une conviction qu'il livre à TF1 dans le journal de 20h.
Il faisait chaud. Bon, Kalinka devait être toute nue. À mon avis, il lui a pris un coup de sang. Il l'a violé. Là, il a perdu la tête et... Il lui a fait cette piqûre pour la supprimer.
Deux ans plus tard, en 97 donc, un nouveau nom s'inscrit dans cette affaire Kalinka Bamberski. Celui d'une jeune Allemande de 16 ans, Laura Stell. Elle était la patiente du docteur Krombach. Et elle raconte, des années plus tard, dans un documentaire réalisé par Michael Egagné.
Et il m'a dit, si tu as peur, tu peux te faire une piqûre.
Le sperme recueilli par des enquêteurs, qui d'abord ne croient pas à Laura, est analysé et comparé. Forcé par les faits de reconnaître, Krombach admet une bêtise. Je reprends son mot. Il se fait donc gronder par la justice allemande qui le réprimande. 2 ans de prison avec sursis. Et le médecin jure que jamais plus il n'exercera son activité professionnelle en Allemagne. Au cours des années qui suivent, 5 femmes accuseront le praticien de les avoir droguées et violées alors qu'elles étaient mineures. André Bamberski, lui, sent grandir cette rage qui le consume depuis 1982. Encore une fois, la justice, qu'elle soit allemande ou française, est trop clémente envers le meurtrier de sa fille. En lui, il y a la conviction inébranlable que Krombach bénéficie d'appuis qui l'aient protégé. Un exemple. En mars 95, peu après la condamnation de l'Allemand, le procureur général de la Cour d'appel de Paris reçoit un courrier, disons, déroutant. Il est en tête du ministère français de la justice, signé par Laurent Lemel, sous-directeur de la justice criminelle, et il est cité quelques années plus tard dans le journal Le Monde. « Je vous serais très obligé de ne pas procéder à l'exécution de cet arrêt sans m'en avoir au préalable rendu compte. » Alors André Bamberski comprend qu'au sein même du ministère, on n'encourage pas vraiment la justice à lancer un mandat d'arrêt international contre Krombach. Quelques années plus tard, Laurent Lemel s'en défend. Il voulait juste pouvoir prévenir les autorités allemandes au cas où. Parce qu'il sait bien que l'affaire intéresse Berlin, mais il n'en connaît pas les raisons. C'est en tout cas le souvenir qu'il a de la visite d'un diplomate de l'ambassade d'Allemagne. L'affaire Kalinka n'est donc pas un dossier parmi d'autres. Et c'est ce que confirme, des années plus tard, le premier avocat d'André Bamberski, François Gibault, qui raconte devant la caméra du magazine spécial Investigation.
Il y avait vraiment un traitement particulier de cette affaire. Le docteur Krombach, certainement à la demande des autorités politiques allemandes, a bénéficié en France, du moins après l'arrêt de la cour d'assises, d'un traitement de faveur. On m'a dit que des contacts avaient eu lieu entre chefs d'État à ce sujet, enfin que du moins ce dossier avait été évoqué lors d'entretiens entre le chef d'État allemand et le chef d'État français, qui était à l'époque M. Mitterrand et M. Kohl.
En cette même année 95, André Bamberski écrit au garde des Sceaux et il lui dit « Seule des pressions politiques ou un marchandage entre la France et l'Allemagne explique l'attitude de la justice française. Il ne m'est plus possible, après 14 années de procédure judiciaire, de tolérer un résultat nul dans des circonstances aussi abominables. Mais qui peut bien le protéger ainsi, ce Krombach? Après tout, il n'est qu'un médecin dans une paisible station balnéaire allemande. Alors, peut-être faut-il chercher du côté des personnalités rencontrées par Krombach quand il était en poste dans différents consulats. La France a beau lancer, parce que André Bamberski ne lâche rien, un début de procédure, ça ne sert pas à grand-chose. L'Allemagne n'extrade pas ses ressortissants. Et puis elle estime que Krombach, ayant bénéficié d'un non-lieu en Allemagne, il ne pouvait pas être rejugé en France. Mais plus les freins sont importants, plus le père de Kalinka accélère et multiplie les procédures. Au cours des années qui suivent, il attaque les plus hautes autorités politico-judiciaires françaises. Jean-Louis Nadal, Alexandre Mermakouf et Jean-François Burgelin, qui se succèdent au poste de procureur général de Paris, mais aussi Pierre Méhenry, Jacques Toubon, Elisabeth Guigou, Marie-Lise Branchu et Dominique Perben, les ministres qui défilent place Vendôme au fil des années. Il faut encore une fois ici mesurer l'incroyable opiniâtreté d'André Bamberski. Aucun obstacle ne l'arrête. Il contourne les murs ou les démolit. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et une partie de ses vies personnelles et professionnelles au nom de Kalinka, sa fille. Oui, il faut le voir à l'époque. Il est comme un bloc, stature robuste et mâchoire carrée, toujours avec dans une sacoche des tonnes de documents. Il était expert comptable, il devient incollable sur le code de procédure pénale français et sur le droit allemand. De toute façon, il l'a juré sur la tombe de sa fille. Jamais il n'abandonnera, comme il le répète sur France 3 Midi-Pyrénées.
Ce que les autorités françaises espèrent, c'est que soit je perde patience, c'est-à-dire j'abandonne, mais enfin maintenant ça fait quand même 24 ans, je crois qu'ils sont persuadés que je ne laisserai jamais tomber. Et surtout, ce pourquoi il faut agir rapidement, ils attendent la prescription.
Comment ne pas donner raison à André Bamberski dans sa dénonciation des entraves judiciaires? Ainsi, en 2000, Dieter Krombach est arrêté en Autriche. Il est relâché au bout d'un mois sans que la France ne demande l'extradition. En 2002, il part en vacances en Égypte. Mais là encore, aucune procédure n'est lancée. Pourtant, la France était finalement résolue à émettre un mandat d'arrêt international. Mais sans grande conviction. La preuve. Comment ne craque-t-il pas André Bamberski au bout de tant d'années? Pourquoi une telle force de résistance en face de lui? Et comment ne pas comprendre qu'il finisse par faire enlever Dieter Krombach, comme nous l'avons raconté dans la première scène de ce récit? Comment ne pas trouver légitime cet acte illégal? André Bamberski dit encore: « Je n'ai pas fait justice moi-même, j'ai juste fait ce que les autorités françaises auraient dû faire. » Pendant presque 30 ans, Bamberski a épié Krombach. Bamberski a surveillé ou fait surveiller Krombach. Il l'a harcelé, lui téléphonant, un souffle dans le combiné, juste avant de raccrocher. Krombach pouvait changer de numéro. Eh bien, toujours Bamberski le repérait. Jusqu'à cette nuit d'octobre 2009, au cours de laquelle le médecin allemand est retrouvé pieds et poings liés sur un trottoir de Mulhouse. Même contre son gré, la justice française doit désormais rejuger Krombach. Son procès s'ouvre le 29 mars 2011 devant la cour d'assises de Paris, compte rendu d'audience dans le 19-20 de France 3.
Le procès qui s'est ouvert aujourd'hui aux Assises de Paris est l'aboutissement d'une saga judiciaire hors norme, face à face, deux hommes. D'un côté, Dieter Krombach, le meurtrier présumé de ses belles-filles. De l'autre, le père de la victime. Pendant 30 ans, il n'a eu de cesse de traquer l'accusé jusqu'à organiser son enlèvement. Nathalie Pérez, Alex Goyri.
Voici l'homme qui a joué les justiciers, fait enlever et traîner devant la justice française l'assassin présumé de sa fille. Ça fait 29 ans qu'André Bamberski attendait ce jour.
Je me sens bien. Je suis presque certain que les débats iront jusqu'au bout.
Lorsque le docteur Krombach entre dans le box, il ressemble à un vieillard tremblant et arc-bouté sur des béquilles. En face de lui, son ennemi de toujours, André Bamberski, se fige. Il va le fixer de longues minutes. Ensuite, leurs regards ne se croiseront que très furtivement, mais suffisamment pour sentir que malgré les années qui ont passé, la haine entre les deux hommes est bel et bien intact.
Dans Libération, la journaliste Ondine Millot écrit que l'entrée de Krombach dans la salle d'audience est sépulcrale et que celui qui se tient face à lui, Bamberski, n'a pas l'air beaucoup plus vivant. L'Allemand a 75 ans, le Français 73. Et Kalinka, elle, aurait eu 43 ans. La journaliste poursuit. Jamais un face-à-face n'a été autant voulu, provoqué d'un côté, mais jamais autant repoussé, fui de l'autre. Mais comme le notent les journaux français, c'est désormais l'heure de la justice dans l'affaire Kalinka, 29 ans après sa mort. Durant les audiences, Krombach accuse les experts de mentir et réfute avoir violé Kalinka avant de la tuer. Il dresse de lui le portrait d'un homme imparfait, certes, mais innocent. Que voulez-vous, il aimait séduire, n'était guère fidèle, mais jamais, au grand jamais, il n'a touché Kalinka. Devant les juges, il invoque un état de santé fragile, 4 infarctus au compteur, dont les médecins ne trouvent pas trace. Ses avocats peinent, et la cour le condamne à 15 ans de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dieter Kronbach fait appel, il est condamné à la même peine en décembre 2012. 8 ans plus tard, alors qu'il en a purgé la moitié, il est libéré pour raison médicale. André Bamberski proteste, mais en vain. Kronbach regagne l'Allemagne le 21 février 2020, où il meurt 6 mois plus tard. Quant à André Bamberski, lui aussi a dû répondre de ses actes devant la justice. Les 22 et 23 mai 2014, il comparaît devant le tribunal correctionnel de Mulhouse pour l'enlèvement de Kronbach. Un justicier face à la justice, titre le journal Le Parisien. L'affaire Bamberski ou la difficulté de juger, note la Croix. La veille de l'ouverture de son procès, voilà ce qu'il dit dans le 19-20 de France 3.
J'assume l'intention, c'est moi qui ai pris la décision. Voilà, ni l'organisation, ni la réalisation. Il y a un monsieur, la personne du dénommé Anton, qui est venu de lui-même voir, et je confirme que j'ai accepté sa proposition. J'étais saturé, je me trouvais dans une impasse totale. Pour moi, c'était justifié, et même c'était un devoir pour moi de le faire, dans la mesure où les autorités responsables ne le faisaient pas.
André Bamberski a accompli son devoir de père, plaide son avocat, Maître de Caune. Et il a permis à la justice de faire le sien, son devoir. On ne peut condamner quelqu'un qui a réalisé un acte légitime. Sur ce point, la ligne de défense est claire. Bamberski a agi par contrainte morale. Alors, l'avocat demande la relaxe de son client. Le tribunal le condamne finalement à 1 an de prison avec sursis. Les deux hommes qui ont enlevé Kronbach, eux, prennent un enferme. André Bamberski reprend alors ce qu'il appelle une vie normale, sans procédure judiciaire. Il a 76 ans. Mais reprend-on réellement une vie normale quand le meurtrier de votre fille vous a enlevé des dizaines d'anniversaires ?
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'affaire Bamberski-Kronbach. Notre invité, Maître Laurent de Caune, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans les locaux de France Bleu Toulouse, Occitanie, pardon. Vous avez été l'avocat d'André Bamberski. Alors, on a essayé de décrire l'homme, mais contrairement à vous, moi, je l'ai jamais rencontré. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à la description personnelle d'André Bamberski?
Pour moi, c'est une force majeure. C'est un concept juridique, la force majeure, mais là, il est personnifié en André Bamberski. C'est une volonté irrésistible au service d'un sentiment paternel inaltérable. Cette volonté, elle est un peu imprévisible également, elle n'avait pas été prévue par Monsieur Kronbach dans son intensité, et elle était tout entière dirigée vers la volonté de surmonter un obstacle théoriquement insurmontable, mais il a été détruit par cette volonté.
Alors, est-ce qu'il était compliqué à gérer? Est-ce que vous avez dû parfois le freiner dans, parce qu'on pas appeler un enthousiasme, mais dans sa ferveur, parce que ça peut être gênant parfois juridiquement.
Alors, c'est une personnalité très méticuleuse, très appliquée, très scrupuleuse, très respectueuse des règles, des formes et du droit. Et à ce titre, effectivement, dans le rapport entre l'avocat et le client, ça peut créer des difficultés de compréhension, d'échange et de confiance réciproque. En l'espèce, la force qu'il montrait était telle que j'ai surmonté moi-même les obstacles que cela pouvait représenter. Et j'ai adhéré à son système de fonctionnement.
Alors, quand vous avez découvert le dossier, vous vous êtes plongé. Quels sont les éléments qui vous ont fait bondir, qui vous ont motivé pour défendre M. Bamberski?
Alors d'abord, il y avait l'élément psychologique pour l'avocat de contribuer à faire avancer un dossier qui est au point mort et à faire éclater une vérité qui se dérobe. C'est toujours un enjeu très important. Ensuite, il y avait la séduction inhérente à la personne d'André Bomberski, sa force de conviction. Et puis, il y avait les évidences du fond du dossier, d'abord, qui montraient qu'effectivement, il y avait des éléments à charge importants contre M. Krombach. Et les éléments, si je puis dire, de procédure qui montraient que ces éléments à charge, on avait fait en sorte de les effacer, de les écarter, de les minimiser, à l'effet d'organiser une impunité.
Alors pourquoi ? C'est une affaire diplomatique entre la France et l'Allemagne ?
Nous n'avons jamais eu de réponse à cette question. C'est un grand mystère. Il est certain que M. Krombach a été protégé par l'Allemagne, par la France. Peut-être que la France avait un complexe d'infériorité par rapport à l'Allemagne, qui est supposée être une société plus rigide et plus rigoureuse que la nôtre, alors qu'en l'espèce, sa justice s'est comportée de façon lamentable. Ensuite, il y avait aussi une sorte de complexe résultant de la condamnation de la France pour la procédure de contumace à propos du cas Krombach. Donc on peut imaginer que certaines autorités ont été anesthésiées, mais quand on récapitule, on voit une coordination quand même entre la France et l'Allemagne pour éviter l'arrestation de M. Krombach.
Alors André Bomberski a aujourd'hui 87 ans, c'est un homme fatigué par ses dizaines d'années de combat. Franck Cognard l'a joint en fin de semaine dernière et lui a demandé si au cours de toutes ces années, il avait eu l'envie de renoncer. On l'écoute.
Je dois redire que pendant ces 40 ans, j'ai bien eu parfois l'envie et même une décision momentanée et instantanée d'abandonner, mais en réfléchissant d'une manière, disons, raisonnable, d'une manière concrète, compte tenu des preuves que j'ai obtenues année par année, et même, disons, dizaine d'années, pour ma part, ça aurait été vraiment de la lâcheté, d'arrêter. Ça ne fait pas partie de mon éducation. Et bon, les gens qui m'ont connu, y compris les médias, y compris les journalistes, ont admis que ça faisait partie de mon caractère.
Vous parlez des médias, justement. Est-ce que sans les médias qui, à partir d'un moment, vous ont soutenu, ont raconté votre combat, est-ce que vous pensez que vous y seriez arrivé sans eux ?
Je ne sais pas si j'y serais arrivé, mais les médias ont énormément participé, et en particulier au moment de l'enlèvement de Krombach et de son arrivée en France. Si tous les médias, hein, que ce soit les journaux, que ce soit les télévisions, que ce soit les radios françaises et même dans la foulée étrangère, en particulier allemande, s'il n'y avait pas eu ça, je suis persuadé que les autorités gouvernementales françaises auraient donné des instructions pour relâcher Krombach.
Diriez-vous que Dieter Krombach a été protégé et pourquoi ?
Écoutez, la justice allemande, lorsqu'il y a une affaire criminelle qui se produit en Allemagne concernant un ressortissant allemand, il faut être certain que l'Allemagne protégera envers et contre tout son ressortissant. Pour la justice française, il y a de bons magistrats, et puis bon, il y en a qui, compte tenu un petit peu aussi des difficultés qu'ils rencontrent, des difficultés, je dirais, du point de vue des moyens matériels, bon, au bout d'un certain temps, s'en foutent comme de l'an 40. Et puis, la seule chose que je n'ai jamais réussi à élucider, c'était de savoir s'il avait été agent secret, en particulier suite à sa présence au Maroc et au fait qu'il était collaborateur de l'ambassade allemande au Maroc.
Tiens donc, est-ce que ce point-là, vous en avez débattu, Laurent de Cône, avec votre client, M. Bomberski ?
Oui, bien sûr, nous nous sommes souvent interrogés, mais nous n'avons pas eu de réponse objective. Mais le soupçon de cette protection liée à d'éventuelles fonctions de M. Krombach est très fort.
Dans l'interview que nous venons d'entendre, Bamberski évoque aussi le rôle des médias. Ont-ils, de votre point de vue également, été importants dans le combat de votre client, voire indispensables?
Oui, alors ils ont été indispensables à certains moments, notamment après la comparution ou la non-comparution, pardon, de Monsieur Krombach dans le cadre de la procédure de contumace, puisqu'il s'est passé des choses tellement extravagantes qu'elles étaient lisibles pour les médias et qu'elles ont été formulées notamment dans des articles de journaux qui ont un peu inquiété les autorités judiciaires. Ensuite, le combat d'André Bamberski était techniquement compliqué. Il fallait expliquer qu'il y avait eu un classement sans suite sur la qualité juridique duquel on s'interrogeait en Allemagne, qu'en France ça ne pouvait pas avoir d'effet. Et le discours à mener pour intéresser les médias était assez austère. Donc à un moment, l'intérêt médiatique s'est un peu affaibli. Et puis, il y a eu l'enlèvement, et là, il y avait du spectaculaire. Par conséquent, l'intérêt médiatique s'est renforcé immédiatement et n'est pas retombé depuis.
France Inter. Affaires sensibles.
Laurent Decaune, je rappelle que vous étiez l'avocat d'André Bamberski. Alors, il y a eu deux procès contre Dieter Krombach en 2011 et en 2012, en appel. Il a été condamné les deux fois à la même peine. Quand Krombach entre dans le box des accusés, la première fois, quel est votre ressenti?
Alors, la première fois, il était dans une grande opération de comédie. Il avait fait semblant d'avoir un incident cardiaque la nuit précédente et il s'est présenté avec le visage qui convenait, sachant qu'il était lui-même cardiologue et qu'il avait quelques compétences en la matière, donc décomposé, s'appuyant sur des cannes, et il a demandé le renvoi pour cette raison et il l'a obtenu. Il a comparu une deuxième fois quelques mois plus tard et là, il s'est dévoilé, son visage naturel est revenu. C'était celui d'un bellâtre. J'avais interprété ça comme celui d'un chanteur d'opérette bavaroise. Avec derrière, quand même, assez rapidement, la sensation d'un être tout à fait pervers. Mais il jouait de son physique, il faisait l'innocent et même l'imbécile pour se faire passer pour innocent dans ses réponses, notamment au sujet de toutes les jeunes femmes qu'il accusait.
Alors, en octobre 2009, André Bamberski donne son feu vert à l'enlèvement de Dieter Krombach. Alors, je ne sais pas si vous étiez au courant avant, si vous avez tenté de le dissuader, mais par la suite, vous avez axé sa défense, enfin la vôtre, pour lui, en opposant l'illégalité de l'action à sa légitimité. C'est l'éternel débat entre le droit et la morale.
Alors, d'abord, Monsieur Bamberski est un homme trop intelligent, trop prudent, trop respectueux de la loi pour faire part, par anticipation, à un homme de loi d'un tel projet. Donc je vous rassure, je n'ai été informé de rien. Ensuite, il est évident que son action se nourrissait de tout ce qui s'était passé antérieurement, de sa souffrance de père bien sûr, mais aussi du constat de l'incapacité et même de la volonté contraire des États français et allemands. Par conséquent, j'ai consulté pour cela bien sûr la jurisprudence et la doctrine, et notamment un très grand professeur de droit qui nous a bien aidés, j'ai développé la théorie de la contrainte morale. Il y a dans le code pénal un texte de loi qui dit qu'on n'est pas pénalement responsable si on a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle on n'a pas pu résister. Moi j'ai considéré que le fait pour un père de mettre à la disposition de la justice l'assassin de sa fille n'était pas contraire à la morale d'une part et relevait ensuite précisément d'une obligation que la morale lui faisait d'agir dans ce sens.
Et vous étiez optimiste vis-à-vis de cette argumentation parce que elle n'était pas évidente peut-être à entendre par la Cour?
Oui, j'étais d'autant plus optimiste que, en l'espèce, André Bamberski a agi pour lui en tant que père, mais pour la justice en tant qu'institution, et par conséquent pour nous tous, pour vous et moi, qui sommes attachés à l'idée de justice et qui voulons que ceux qui ont à répondre de la justice comparaissent effectivement devant elle et s'expliquent. Et ça, c'était le noble but d'André Bomberski, qui a dominé tous les autres. Et il vous a expliqué tout à l'heure, enfin dans son interview, qu'il aurait été plus facile de provoquer la mort de Krombach que de faire en sorte de le récupérer sur le territoire français. C'était donc pour la justice. C'est une action morale pour lui et indispensable pour la justice. J'avais donc bon espoir.
Et est-ce que ce concept de contrainte morale est usuel maintenant dans les cours d'assises? On peut statuer sur ce concept-là de contrainte morale?
Alors, on statue de temps en temps. Les cas qui permettent de s'y référer ne sont pas très nombreux. Mais j'ai l'impression que cette notion est en train de se développer. Elle est apparue de façon plus nette dans le nouveau code pénal qui remonte à quelques années maintenant qu'elle ne l'était autrefois. Mais elle me paraît fondamentale dans une société évoluée comme la nôtre. Il y a des actions qu'on exécute sous l'emprise d'une force. Il faut analyser cette force. Si cette force, elle est noble, si elle est dans un sens éthique, si elle est dans un sens personnel mais aussi général, à mon avis, il faut l'admettre comme une exonération de culpabilité.
Au cours de la procédure, et on l'évoque dans le récit, André Bomberski décide de poursuivre plusieurs hauts magistrats français ainsi que des ministres de la justice. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous lui avez dit, bon, là vous allez un peu trop loin?
Je lui ai dit, mais je l'ai fait avec lui.
Alors, dites-moi pourquoi.
Je l'ai fait avec lui parce que c'était la seule façon de maintenir une pression sur la justice française pour qu'elle ne se sente pas libérée de Monsieur Bomberski. Monsieur Bomberski était un homme très présent, très insistant auprès des magistrats, auprès de tous ceux qui relayaient la justice française à l'époque, et il fallait pas déserter le terrain. Et par ailleurs, il y avait effectivement, dans ce que nous avions constaté, les ferments de graves reproches à faire à la justice française. C'est pour cela que j'ai accepté de déposer pour lui une plainte visant très clairement des magistrats. Je ne me suis pas attaqué au ministre, mais oui, nous avons élaboré la possibilité de les mettre en cause. Et cette possibilité, elle a été admise par une juge d'instruction de Versailles qui a fait un excellent travail, qui les a entendus. Et devant elle, ils se sont assez peu défendus et ils ont reconnu avoir été assez défaillants et ils se sont retranchés derrière le travail de leurs collaborateurs. Mais bon, ça, c'est leur responsabilité morale.
Bien, ce sera le mot de la fin, Laurent de Cône. Je vous remercie. Je rappelle que vous étiez l'avocat d'André Bomberski.
Merci à vous.
Père qui n'a jamais, jamais lâché l'affaire. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, André Bomberski, une émission que vous pouvez retrouver en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Alex Olareyaou, au Tinois.